Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Rémi Barret.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi, 14h aujourd'hui, avant l'étape du Tour de France, à vivre en direct dans l'intégral Tour, sur RMC, RMC Story. Donc, nous sommes ensemble avec Paul Lassen, journaliste RMC, Robert Sebag, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, Élise Goldfarb, entrepreneur, militante féministe, et Frédéric Hermel, journaliste RMC. Dans un instant, on va parler voiture électrique. Pollution, panne, coût, la voiture électrique est-elle une aberration? Vous nous appelez au 3216 à 13h45, ce sera le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. Et puis Paul, on continue de jouer sur RMC.
Oui, puisque cette semaine, RMC vous envoie en Allemagne pour assister aux demi-finales de l'Euro 2024. Nous vous proposons de vivre l'expérience RMC, le voyage à Munich avec le vol et l'hôtel, bien sûr la rencontre avec les équipes de RMC avant le match, et bien sûr vos deux places pour la demi-finale du 9 juillet à 21h à Munich. Alors dès que vous entendez cette alerte à l'antenne, vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant Euro au 7-32-16, Euro au 7-32-16.
RMC Estelle Midi.
Voiture électrique qui passe. Mais y aura-t-il un doute? En tout cas, alors que la mort de la voiture thermique est déjà programmée, la voiture électrique est-elle vraiment la solution du futur? Paul, les premiers retours d'expérience, comment dire, pose question.
Oui Rémi, d'après une étude publiée par l'association Sécurité et Réparation Automobile, au début du mois de juin, la voiture électrique, déjà, elle est moins économe que sa cousine thermique en termes de réparation. D'après cette étude, qui s'appuie quand même sur 800 000 rapports d'expertise des assurances après des sinistres qui sont survenus l'an dernier, faire réparer son véhicule électrique coûte 15% de plus en moyenne que pour un véhicule thermique. Exemple marquant, la Dacia Spring, véhicule 100% électrique. C'est aujourd'hui la voiture la plus chère à réparer des 10 véhicules parmi les Mini Citadines. Enfin, niveau assurance, si les tarifs restent raisonnables aujourd'hui, d'après les professionnels du secteur, il faut s'attendre à une augmentation du prix des assurances en France de l'ordre de 10 à 20%.
Sur les électriques. Hein.
Sur les électriques dans les prochaines années.
Absolument. Ah, forcément, si ça coûte plus cher à réparer. Bah...
Exactement. Autre facteur, tu en parlais, l'écologie. Si les véhicules électriques sont mises en avant pour leurs bienfaits sur l'environnement. D'après la revue très sérieuse Nature aux États-Unis, elle provoque aussi de la pollution. Dans toutes les grandes villes où la voiture électrique est omniprésente, on a évidemment constaté une baisse des niveaux de polluants dits classiques, mais on observe à l'inverse une nette montée de la concentration de méthane dans l'air. Or, le méthane, c'est aussi un gaz à effet de serre dont le pouvoir de réchauffement est 28 fois supérieur à celui du CO2.
Ah bah. Pollution, panne, coût, la voiture électrique est-elle une aberration? Vous nous appelez au 3216. Fred,
Frédéric Hermel. C'est une arnaque, ça, mais moi j'ai toujours pensé que c'était une aberration écologique, économique et sociale. Et sociale, notamment dans notre pays, puisque nous sommes un pays où on fabrique encore des voitures. Nous avons des
géants. On va fabriquer des voitures électriques.
Oui, mais nous avons des géants. Oui, mais sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, le marché à l'électrique et surtout chinois, puisqu'ils ont, ils ont démarré largement avant nous. On a bien vu au dernier salon de l'auto à Paris que les grandes stars des voitures électriques étaient chinoises. Ils ont beaucoup d'avance. Et donc, on est en train d'offrir un marché à la concurrence, à la Chine, avec ce qu'on sait de respect des droits humains, de respect, enfin, d'absence de respect des droits humains, d'absence de respect de l'environnement, etc. Donc voilà, on sait très bien. En plus, je dis que c'est une catastrophe sociale parce que ça va faire perdre des emplois chez nous. Je vous rappelle quand même que la France, c'est Renault, c'est Stellantis, ex-Renault, ex-Peugeot, Citroën, etc. Donc nous sommes historiquement de grands fabricants de voitures. Donc socialement, c'est un problème pour nous. En plus, l'ouvrier... Vous savez, l'invention du capitalisme, c'est John Ford qui a fabriqué la Ford T en disant « Je veux que mes ouvriers puissent acheter la voiture qu'ils produisent ». Ben aujourd'hui, un ouvrier qui produit une voiture électrique n'a plus les moyens de s'acheter une voiture électrique parce que ça coûte beaucoup trop cher, on l'a expliqué. À l'achat, à l'entretien, à la réparation, etc. Et surtout, on avait expliqué l'autre jour qu'au niveau de l'Argus, la décote était très rapide. Ouais. C'est-à-dire que ça perdait de la valeur très très vite. Encore plus vite beaucoup plus vite qu'une voiture thermique. Donc voilà, on s'est fait totalement entuber, désolé de parler comme ça, pour des raisons purement idéologiques. Moi, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un très haut dirigeant d'une très grosse entreprise française. Voilà, c'était du off, qui officiellement on pouvait pas le dire, et c'est une maison qui fabrique des voitures électriques en disant que c'était une aberration et que eux-mêmes le savaient, que aujourd'hui par exemple une voiture thermique diesel nouvelle génération émet très très peu de gaz à effet de serre.
Ah oui, oui.
Non, mais par rapport à ce qu'il y avait, etc. Mais quand on voit les chiffres aujourd'hui, sûr, par rapport au méthane, c'est-à-dire que ça ne justifie pas tout ce qu'on est en train de faire à ce niveau-là.
Élise, je sens que tu t'énerves, mais tu restes au point mort pour l'instant. Je donne la parole.
Je reste au point mort, j'attends. Voilà.
Et Robert, et après tu vas pouvoir démarrer en trombe.
Alors, je ne vais pas appuyer sur l'accélérateur. Moi, je. c'est vrai que au départ, quand on a commencé il y a plusieurs années à parler de voitures électriques, j'étais séduit. J'ai dit effectivement, voilà. Et puis, en creusant un petit peu, alors avec les chiffres que nous a donné Paul, pour moi, il n'y a pas photo, je pense que c'est réellement une aberration parce qu'on n'étudie pas le cycle de vie d'une voiture. Et quand on regarde le cycle de vie d'une voiture, en particulier sur la fabrication des batteries, alors peut-être qu'un jour ça évoluera, on s'aperçoit que effectivement, c'est les terres rares. On exploite des gens dans des pays extrêmement difficiles, le nickel, le cobalt, la République démocratique du Congo, la Bolivie, les salars, etc., où on trouve effectivement toutes ces terres rares. Après, il y a effectivement le coût et surtout, après, la destruction de la voiture. Parce que la voiture, il faut aussi, une fois qu'elle est terminée,
il faut recycler.
C'est le cycle de vie. On en fait quoi ? De tous ces métaux rares, de toutes ces batteries, tout ça. Et en plus, bien sûr, il a dit le coût social aujourd'hui. Et on s'aperçoit effectivement, quand on voit, si vous voulez, la pression des Chinois aujourd'hui. Voilà. Et alors là, je découvre, le méthane, je découvre. Merci Paul, parce que je découvre, je savais pas que... Et le méthane, effectivement, est un gaz à effet de serre. Mais pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut garder, si vous voulez, un minimum. Je suis plus pour la voiture hybride non rechargeable, parce que c'est des petites batteries, que pour la voiture toute électrique.
Pollution, panne, coût, la voiture électrique est-elle une aberration ? Vous nous appelez au 3216. Élise.
Alors, déjà, je vais commencer par répondre sur l'argument de « on va se faire dominer par la Chine ». Excusez-moi, oui. Mais avec les voitures qui sont aujourd'hui thermiques, donc faites avec du pétrole, on est complètement dépendant de l'Arabie Saoudite et de la Russie. Donc je préfère.
Non, mais pas pour la fabrication.
Pas pour la fabrication, mais pour l'emploi,
pour l'énergie.
Ouais. Ensuite.
On parle de la fabrication.
Oui, pour je te parle de la fabrication, mais enfin la réalité, c'est.
Non, mais moi je parle du coût social pour la
pétrole.
Fabrication.
Oui, c'est la même chose.
Vas-y, Élie.
Ensuite, évidemment, pour les voitures électriques, la fabrication, elle consomme beaucoup. En revanche. Les voitures électriques sont fabriquées avec du renouvelable et avec de l'électricité, d'accord ? Ce qui nous permet, à long terme, de nous indépendantiser des énergies fossiles. En fait, c'est une question d'énergie fossile, la question de la voiture électrique. C'est OK, sur la fabrication, ça consomme, mais sur le long terme, ça nous permet de nous sortir du pétrole. Et nous sortir du pétrole, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire nous indépendantiser de la Russie, nous indépendantiser de l'Arabie Saoudite, nous indépendantiser de plein de problèmes, en fait, et surtout au niveau écologique, donc de miser en France sur le nucléaire.
Sauf que sur la production de batterie, aujourd'hui,
avec le nucléaire et le renouvelable.
Mais pour la construction des batteries, pour la fabrication des batteries, à l'heure actuelle, on quitte une dépendance, tu as raison, et Fred, je suis pas d'accord avec toi, elle a raison. Le premier choc pétrolier, le deuxième choc pétrolier.
Non, mais désolé, on s'est pris en pleine face.
Là, c'est pour Fred.
Est-ce que tu veux qu'on parle de 73 et 79
Il y a eu des conséquences. C'est pas du pétrole. Excusez-moi, je termine. Et il y a eu des conséquences sociales.
Ah, mais bien entendu.
79.
Mais le problème, c'est que si. On, comme tu dis, on s'indépendantise de ces pays producteurs d'énergie fossile, de pétrole. C'est pour tomber dans une autre dépendance à l'égard d'autres pays pour la production des batteries.
Regardez, la France est en train de développer le nucléaire de façon.
Mais ça, c'est pour l'électricité, mais la batterie.
Mais quand tu développes le nucléaire pour construire une batterie.
Non, c'est la fourniture d'électricité, c'est pas la batterie.
D'accord, il y a des métaux rares là-dessus.
Ok, d'accord. Hello les gars, alors on interdit l'iPhone.
En tout cas, on vous pose la question.
Il y a beaucoup plus de gens qui ont des iPhones que de gens qui ont des voitures électriques.
Robert, s'il te plaît,
pardon.
On va sur le terrain. On va au 32-16.
D'accord.
Sur le terrain, retrouvez ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Et on va retrouver Kevin. Et je dis sur le terrain parce que Kevin, il est propriétaire d'un véhicule électrique. Donc on va voir comment ça se passe. Bonjour Kevin.
Et bonjour.
Merci de nous rejoindre. On est en Haute-Garonne.
C'est ça, tout à fait.
Dans quel coin ?
Du côté de Beauzelle.
Beauzelle, très bien. Kevin, vous faites quoi dans la vie ?
Je suis expert logiciel.
D'accord, et vous avez une électrique ?
Oui, depuis 3 ans maintenant.
Une petite, une grosse ?
Une moyenne.
Bon, d'accord.
C'est une moyenne qu'on voit beaucoup.
Bon, d'accord, très bien. Ça commence par un T, ça finit par un A, c'est ça ?
Peut-être.
Elle vous a coûté combien ?
Allez.
Pardon, elle m'a coûté 36 000 euros.
Ah, d'accord.
Bon. Aide déduite ?
Oui, tout à fait.
Ouais. Donc c'est un joli coup. Bon, Kevin, comment ça se passe ?
Ben, ça se passe parfaitement bien. J'ai 70 000 km aujourd'hui au bout de 3 ans avec ma voiture. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Je ne reviendrai jamais au monde avec mon vieux moteur thermique de 1860.
Parlez bien devant le téléphone, en revanche.
Pardon. Ouais. Je ne reviendrai jamais en arrière avec ce vieux moteur thermique de 1860. Voiture électrique, voilà. Au niveau du coût, par exemple, je suis passé de pratiquement 2 500 € de carburant par an à 500-600 € par an.
Donc ça, il y a une vraie différence, c'est sûr.
Recharge. Là, ma voiture, je vais avoir 3 ans, donc je vais avoir ma première visite d'entretien à faire, donc je vais changer de filtre d'habitacle qui coûte 40 €. C'est le seul entretien qu'il y a à faire.
D'accord.
Et puis voilà, et puis l'agrément de conduite, le fait de ne pas avoir de vibration, pas de bruit, le fait de ne pas...
Mais est-ce que ça ne vous inquiète pas lorsque vous voyez ces études qui sortent et qui nous disent quand même que... Alors, je ne vous le souhaite pas évidemment, mais si vous aviez un problème mécanique sur votre voiture, si vous aviez un accident, et encore une fois, je ne vous le souhaite pas, mais même un matériel, lorsqu'on dit que ce n'est pas si propre que ça, ça ne vous interroge pas?
Ce qui m'interroge, moi, un petit peu, c'est que moi, je suis quand même très branché sur le sujet, je lis beaucoup d'enquêtes et compagnie, et tous les jours, je vois des études qui vont dans l'autre sens. Une étude très récente, par exemple, américaine, sur des dizaines de milliers de Tesla qui avaient dépassé les 330 000 kilomètres, en moyenne, les batteries qui étaient bien évidemment d'origine avaient perdu 15% d'autonomie.
Ouais.
Donc, moi, des enquêtes comme ça, j'en vois tous les jours. J'ai vu une enquête qui m'a fait mal à la tête, parce que c'était trop compliqué pour moi. Qui montrait que, grosso modo, en France, une voiture électrique, parce qu'elle arrive à 40 000 km, elle a autant pollué qu'une voiture thermique. En Pologne, c'était 90 000 km, parce que l'électricité était fortement carbonée là-bas. Je voudrais aussi juste rajouter que n'oublions pas qu'on est aujourd'hui au tout début de la voiture électrique et des batteries.
Pour la technologie, 2026,
Pour 2026, il y a déjà des marques qui sont en train de finaliser les batteries sans métaux rares. On a aujourd'hui des usines de production de batteries qui sont en train de se construire en France.
Ouais.
Je vais citer la marque Renault parce qu'ils sont aujourd'hui les premiers sur un nouveau Scénic à avoir mis tout un système qui fait que si des cellules de batteries sont défectueuses, on change juste les cellules et pas toutes les batteries.
Mais restez avec nous si vous voulez bien, Kevin. Restez avec nous. Il y a Mehdi Ghezard qui nous rejoint. Vous le connaissez, j'imagine, les grandes gueules. Salut Mehdi.
Salut, comment ça va?
Très bien. Et toi, Mehdi?
Magnifique.
Bon, Mehdi Ghezard, président du groupe GZR Auto, grande gueule évidemment d'RMC. Mehdi, voilà, Kevin, il est content, hein?
Tant mieux, il est content parce que Kevin a les moyens de se payer une Tesla, mais c'est pas le commun des mortels qui a les moyens de se payer une Tesla. C'est ça le problème, c'est que les gens pensent que Tesla est l'unique vendeur de voitures électriques, et malheureusement, les petits budgets n'ont pas cette garantie-là et n'ont pas les mêmes problèmes que les Tesla ont. Les Tesla ont une sorte d'histoire maintenant, parce que c'était les pionniers dans le véhicule électrique, et que maintenant ils ont une sorte
d'expertise,
de grande notoriété, d'expertise. Mais moi, je vous demande de me voir les problèmes qui sont sur les Dacia Sandero, les Dacia Sipoe, les petites voitures électriques à petit budget, où là, il y a de très, très gros problèmes. Il y a d'énormes problèmes. Le véhicule électrique est plus cher déjà à l'acquisition qu'un véhicule thermique. Donc déjà, tu payes plus cher son acquisition, donc tu perds de l'argent par rapport à ça. Et le slogan et le refrain à chaque fois que l'électrique, ça dure 300 000 km. Oui, d'accord, sur des Tesla, sur des bagnoles à 40 000 balles, à 50 000 balles. Pas sur des voitures à 10 000 euros, à 15 000 euros. Et moi, je ne pense pas au panier haut. Je pense au panier moyen ou au panier bas. Il y a un fait, et le fait, il est réel, c'est que les voitures de petit budget sont moins performantes et moins sûres que les véhicules thermiques. C'est une évidence. C'est pas moi qui le dis. Toutes les études le disent actuellement. Tout simplement, quand vous achetez une voiture de moyenne gamme ou de bas de gamme, malgré qu'elle soit neuve, déjà vous la payez plus cher qu'un véhicule classique, et en plus vous avez beaucoup plus de
problèmes. Donc on est d'accord, Mehdi, pour enfoncer une porte, mais on est bien compris ce que tu dis, il y a voiture électrique et voiture électrique, quoi.
Exactement, vous avez le problème de la voiture électrique, c'est que si tu as du pognon, et c'est comme dans peu importe les voitures, que ce soit thermique ou électrique, mais le problème, c'est que le coût des réparations des véhicules électriques sont beaucoup plus importants que le coût des réparations sur des véhicules thermique.
Kevin, reste avec nous, Mehdi. Kevin, vous l'entendez, ça?
J'entends. Maintenant, la question que j'ai peut-être envie de lui poser,
c'est... Allez-y, il vous écoute. Allez-y, posez-lui directement, Kevin. Mehdi vous écoute.
Est-ce que, parce qu'aujourd'hui,
effectivement, la voiture électrique est encore un peu chère et n'est pas encore accessible à tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'il faut supprimer la voiture électrique et refuser tout
Alors, contact? la supprimer, non. Je ne suis pas du tout cet avis-là. Mais arrêter de faire du lobbying à outrance, parce qu'on est suivi, on est pourchassé par des lobbies chinois et américains pour dire que le tout électrique est l'avenir et que tout va marcher. C'est d'une connerie, mais sans nom. Je vous le dis, c'est d'une connerie sans nom. On n'a pas les capacités de rechargement pour avoir un parc automobile électrique complet. Et même dans 10 ans, on ne l'aura toujours pas. Dans 15 ans, on ne l'aura toujours pas. Et dans 20 ans, on ne l'aura toujours pas.
Ça, encore une fois, vous pouvez l'entendre, Kevin, parce que ce que dit Mehdi, effectivement, c'est pas, il prône pas le non électrique. Mais là, on va tout droit. En tout cas, c'est le discours politique, et notamment en France. Hein. Moi, je me souviens d'Emmanuel Macron. Il prône le tout électrique. Donc, quand on n'aura pas le choix, on fait comment, Kevin?
Alors, déjà, ils n'ont jamais prôné le tout électrique. Ils ont prôné la fin du thermique.
C'est quoi la différence entre ne pas prôner le tout électrique et mettre le thermique?
La voiture qui roule à l'huile de colza, par exemple.
Moi, j'ai pas entendu le président de la République prôner l'huile de colza.
Ensuite, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. C'est qu'il y a énormément de lobbying anti-voiture électrique, et de la part souvent sur des arguments qui sont souvent fallacieux. Genre, ça n'a pas assez d'autonomie, dès qu'on met la clim, on fait moitié moins de kilomètres, alors que sur des choses qui ne se vérifient absolument pas dans la vérité, et quels que soient les quelles que soient les marques, il n'y a pas que Tesla qui fait la voiture électrique, il y a aussi des Hyundai, des Kia qui dépassent les 500 000 km sans problème. Voilà, c'est un petit peu un faux procès, donc voilà, je suis juste...
Mais on a entendu votre avis et c'est bien que vous l'ayez exposé. Merci Kevin d'avoir été avec nous, Kevin qui nous appelait depuis la Haute-Garonne. Mehdi, je reviens vers toi. Mehdi, moi il y a une chose qui m'inquiète, c'est que je me souviens qu'il y a quelques mois, j'ai entendu le patron de Stellantis, je crois, qui parlait d'électrique, en tout cas c'était un constructeur français, et qui nous disait... Le journaliste lui demandait si un jour on pouvait espérer des voitures électriques. On a compris, il y a voitures électriques et voitures électriques. Donc de bonnes voitures électriques, on va dire, à des prix abordables. Et moi, je me souviens très bien que ce patron d'un grand groupe français, franchement, je fais pas d'omerta, mais je me souviens plus lequel c'était. Je sais pas si c'était Renault ou Stellantis, peu importe. Il lui a dit, je peux pas vous promettre qu'on arrivera un jour à fabriquer des voitures électriques pas chères. Moi, ça m'inquiète, ça, quand j'entends un patron, un constructeur dire ça.
Vu le prix de la batterie, c'est 40% de la batterie, c'est 40% du budget. Ouais. Donc, à un moment, il est vrai qu'il y a des usines qui sont en train d'être créées les unes après les autres en France pour justement satisfaire la demande qu'il y a dans ce domaine-là. Mais le problème, et moi je le dis, c'est que le véhicule électrique n'est pas disponible pour tout le monde et pour tous les budgets. Parce que quand vous êtes à moins de 100 000 km, tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais dès que vous passez les 100, 120 000 km sur des petites voitures, petits budgets, les problèmes commencent et les factures sont beaucoup plus onéreuses que les véhicules thermiques. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas mon garage qui le dit, c'est un fait réel sur l'ensemble du parc automobile électrique. Donc, ok, il n'y a pas de problème, on y va, si vous voulez, au tout électrique. Moi, ça ne me dérange pas, de toute façon, parce que on a fait des formations pour mes mécaniciens pour le tout électrique. Ouais. Mais le souci, c'est que la facture est x1,5, voire x2, quand c'est de l'entretien de véhicules de ce type-là. Et après, les gens vont se plaindre, ils vont se prendre un retour de boomerang en se disant, on nous avait promis d'économiser de l'argent par rapport à l'autonomie. Et ben finalement l'électricité, vu le prix de l'électricité qui n'arrête pas d'augmenter.
Ouais, ça c'est une autre question, t'as raison Mehdi. Ça c'est une autre question.
Voilà.
Parce que aujourd'hui charger sa voiture, ça revient pas très cher, mais rien ne dit que ça continuera.
Dans les 3 ou 4 prochaines années. Hein. Ouais. Je pense pas que ce soit la même chose. Ouais. Mais maintenant, je veux pas être réfractaire en disant non, c'est pas bien. Non, mais je suis en train de vous dire que on est en train de rentrer dans un mur à vitesse grand V parce qu'on n'a pas les capacités ni techniques ni matérielles de satisfaire tout le monde. Et je ne pense pas au cadre sup, je ne pense pas aux gens qui ont les moyens de se payer des Tesla ou des Hyundai ou des Toyota qui ont des vraies capacités en termes de garantie, mais je parle toujours des petits budgets. Et ça me fait peur.
Merci Mehdi d'avoir été avec nous. Mehdi Guézard, président du groupe GZR. Salut GZR Auto et Grande Gueule sur RMC. Maxime nous rejoint en 32-16. Bonjour Maxime.
Bonjour.
On est en Ille-et-Vilaine.
Tout à fait.
Pardon, j'ai pas entendu.
À Rennes.
À Rennes, on est directement à Rennes. Très bien, vous faites quoi dans la vie, Maxime?
Je travaille en banque.
Très bien. Bon, vous faites confiance à la voiture électrique ?
Je fais confiance, oui ou non, parce que j'ai rencontré un problème avec c'était une Renault Zoé, ouais. Où en fait, en pleine conduite, en fonction de la température et du climat. Donc l'avantage, c'est qu'en Bretagne, on n'a pas forcément le risque, en tout cas, de la chaleur. Mais quand il y a eu certaines canicules, la voiture s'est mise en sécurité. Et qu'en sur la 4 voies, bah, du coup, la voiture s'est mise en sécurité et impossible juste de rabattre en forçant le véhicule pour la mettre sur la bande d'arrêt d'urgence.
Oh, ça doit faire peur, ça.
Donc, et après, la voiture ne réagit plus du tout, elle reste allumée et on a marqué.
J'imagine, vous êtes allé vers votre revendeur, il vous a dit quoi?
Bah, en fait, le temps déjà de se faire dépanner, etc. En fait, au bout d'une demi-heure, la voiture se remet à se réactiver. Donc, on repart, etc. Et après, quand j'ai fait analyser en fait le véhicule, c'était en fait un défaut de capteur sur le moteur. Et sauf que du coup, on n'a pas du tout la technologie ou les compétences aujourd'hui de réparer cette pièce-là. Et il faut un changement intégral du moteur.
Non.
Alors que le moteur avait que 40 000 km, quoi.
Mais vous avez fait comment alors? Vous avez la garantie au moins?
Non, la voiture était 2017 et du coup on l'a changé en 2023. Le moteur, et du coup, bah, la garantie était passée, donc c'était après.
Ça veut dire que vous avez été. Donc, recombin flanc.
Comment?
Vous n'avez rien pu faire?
Non, en fait, changement de moteur, et du coup, c'était.
Bah, combien ça vous a coûté?
Ça m'a coûté 4000 euros. Donc, comme on dit, voilà, si tous les 40 000 km, on doit mettre 4000 euros de réparation. Ouais. Donc, c'est vrai qu'après, j'ai pas eu d'autres frais, on va dire, annexes associés.
Bah, mais bon, si le. Voilà. Et elle vous avait coûté combien à l'achat de la voiture?
Elle avait coûté 20 000. Ouais, avec les bonus associés, vu qu'on avait redonné un véhicule.
Ouais, ça fait un sacré budget. Hein. Bah, voilà, j'imagine, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est un coup de chaud, mais ça vous a refroidi un petit peu, non?
Oui, c'était. On se pose des questions en fait, surtout c'était ma femme qui conduisait et c'est surtout en fait de.
Ah, la frayeur.
Ne réagit plus,
dangereux.
En fait, ni accéléré, on a tout juste du mal en fait à même tourner parce que la direction assistée a même du mal à se. À débloquer. Donc non, ça peut. Ouais, ça.
Bon, au moins vous faites des économies sur le carburant.
C'est ça, c'est le côté positif.
Ouais, bah heureusement qu'il y en a un. Merci Maxime d'avoir été avec nous. Maxime qui nous appelait depuis l'Ille-et-Vilaine. On va voir s'il y a des messages, notamment sur Direct Studio, Paul.
On a beaucoup de retours d'expérience de Morgane qui dit j'ai roulé pendant 4 ans en électrique. En effet, lui voit un vrai avantage sur la facture au final quand on fait.
On le conteste pas.
C'est 4 fois moins cher que le carburant, 400 euros de plein par mois avec une essence. Ce qui fait, c'est une Peugeot 2008, nous dit-il, franchement très satisfait. Quand on en vient aux réparations, il dit beaucoup d'économies comme embrayage, entretien, les coûts au quotidien,
forcément.
Ça devient beaucoup plus cher que la thermique. Beaucoup de gens ont de la famille à plus de 200 km, nous dit Romain. C'est donc très compliqué pour beaucoup de gens. C'est un peu ce que nous disait Mehdi. Quand on n'a pas forcément un gros portefeuille pour acheter une voiture électrique.
Dès qu'on dépasse un certain kilométrage. Voilà.
Ouais. Le kilométrage est compliqué à remplir pour les gens qui ont peu de moyens.
Allez, résultat de notre consultation, pollution, panne, coût, la voiture électrique est-elle une aberration?
Oui. Pour 89% de nos auditeurs.
Mais bon, les constructeurs qui nous écoutent savent qu'ils ont encore du boulot au niveau communication. Allez, dans un instant, les Français en direct, notre Tour de France des législatives, on continue, c'est vous qui avez la parole. C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story, on sera du côté. Après avoir été dans l'Aisne, on ira en Loire-Atlantique. À tout de suite.
RMC, midi 14h. Estelle Midi,
Rémi Barret.
Estelle, midi, 14h sur RMC, RMC Story, le deuxième tour des législatives. On est en pleine entre deux tours. Vous en êtes où? Vous en pensez quoi? Après le département de l'Ain, on va en Loire-Atlantique.
RMC, législative 2024, les Français en direct.
Et Martin Cadoret, reporter RMC, est avec nous. Bonjour Martin.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. On est donc en Loire-Atlantique. Bonjour.
Tout à fait, je suis avec Jean-François, il a 40 ans, il est apiculteur bio. Je l'ai croisé ce matin sur le marché qui vient de se terminer. Il va voter pour le nouveau Front Populaire dans sa circonscription. C'est un écologiste, le député sortant, qui est d'ailleurs en tête de peu. Et justement, les enjeux écologiques pour lui sont complètement absents de la campagne. Et ça l'attriste beaucoup.
Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Je peux vous demander pour quel parti exactement vous allez voter? Enfin, pour quel type de candidat? Pour quel candidat?
Le nom du candidat?
Non, sa couleur politique.
sa couleur politique, eh ben, il est écologiste.
D'accord, pour un écologiste.
Nouveau Front Populaire.
D'accord. Est-ce qu'il y a un sens pour vous, j'imagine, en tant qu'apiculteur bio?
Ouais, bien sûr, mais c'est l'ensemble du programme Nouveau Front Populaire qui me plaît aussi, et puis c'est voté pour un député qui est le député sortant et qui a bien travaillé depuis 3 ans et qui voilà, c'est aussi pour ça que je vote pour lui, quoi.
Donc vous êtes convaincu? Est-ce que vous comprenez une bonne partie des Français qui nous parlent notamment sur RMC au 32-16 et qui eux sont totalement perdus?
Oui et non, moi c'est assez clair en fait. Moi le programme du Nouveau Front Populaire me convient tout à fait. Dans ce moment d'inquiétude, me donne plein d'espoir en fait. On en discutait avec Martin avant. Moi je change mes humeurs entre l'inquiétude et la peur de ce Rassemblement National qui arriverait au pouvoir, et en même temps plein d'espoir, parce que ce que propose le Nouveau Front Populaire, moi, me donne plein d'espoir.
Bon, le programme il est vaste. Si vous deviez nous citer quelque chose auquel vous croyez particulièrement, ça serait quoi comme type de mesure?
Par rapport au Nouveau Front Populaire?
Ouais.
L'idée de réduire les inégalités, je crois que c'est ce qui vraiment fait beaucoup de mal aux Français et ce qui, je crois, je sais pas en tout cas, mais je crois, amène les gens à voter Rassemblement National. C'est le déclassement, le fait que les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches, en fait, et qu'on voit bien qu'il y a un problème là-dessus, quoi.
Martin, oui. Ce matin, tu me disais, tu as rencontré Jean-François sur le marché, c'est ça?
Exactement.
J'imagine que tu as eu l'occasion de discuter avec pas mal de d'habitants du coin. C'est quoi l'ambiance générale?
L'ambiance générale, on va dire que c'est effectivement un sentiment un peu de déclassement. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce que Jean-François me disait juste avant qu'on prenne l'antenne, c'est que avant, avec son voisin, ils arrivaient à se parler. Bon, ils n'avaient pas les mêmes idées. Et maintenant, il y a une sorte de fossé qui se creuse. C'est un peu difficile de discuter. C'est ça que tu me disais, Jean-François.
Ouais, en tout cas, c'est on sent que ça se tend. Moi, c'est l'inquiétude majeure pour la suite. On ne sait pas si le Rassemblement National aura. On pense pas qu'ils auront la majorité, mais en tout cas, c'est
une sorte de fraction
dans le. Ouais, voilà, ouais. Et ça fait peur et ça fait suer, pour ne pas dire autre chose, de plus pouvoir discuter. Maintenant, le fait d'être de gauche écolo, on est une extrême et à contrario, donc c'est assez terrible. C'est surtout ça qui est vraiment embêtant, quoi.
Merci Jean-François d'avoir été avec nous. Merci à Martin Cadoret, reporter RMC Les Français en direct. On était donc en Loire-Atlantique. Dans un instant, la suite d'Estelle Midi, c'est le meilleur du jour. Notre zapping. À tout de suite.
RMC Midi 14h. Estelle Midi.
Rémi Barret.
Estelle Midi, tous les jours midi, 14h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. J'allais dire que c'est le meilleur du jour sur RMC.
Là, c'est le meilleur de l'Euro.
Le meilleur du foot.
Oui, c'est le moment de vous inscrire pour vivre l'expérience RMC Euro 2024. On vous envoie à Munich pour la demi-finale qui aura lieu mardi prochain, demi-finale de l'Euro. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour vous inscrire en envoyant Euro au 732-16. Euro au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on commence avec les GG, pour ou contre le clip de rap anti-RN. Un collectif intitulé Non pas Saran, ils ne passeront pas, d'une vingtaine de rappeurs, dont Akhenaton ou encore Sosomanes, ont enregistré un clip dans lequel les paroles sont sans détour. Fuck le Rassemblement ou encore Jordan t'es mort, un clip honteux pour Fessal, auditeur d'RMC qui témoignait ce matin chez les GG.
Moi je suis français d'origine marocaine et musulman. Je suis né en France, j'ai grandi dans les cités HLM, mais nos parents nous ont éduqués, ils nous ont appris à respecter ce beau pays, la France, qui les a accueillis. Aujourd'hui, je suis outré, on est outré, on n'en peut plus, nous, musulmans, maghrébins, d'entendre, de voir que ces gens-là, c'est eux qui nous représentent dans les médias. On n'en peut plus de ces rappeurs, de ces footballeurs, de ces chanteurs, de ces comédiens, de ces Aya Nakamura. Ces personnes-là, moi, ne me représentent pas. C'est une honte. Ce clip, il est inadmissible. Baisse Bardella, la mère de Bardella, comme vous avez dit, pute, etc. En quoi ça, c'est du respect? En quoi ça, c'est de
Merci.
La tolérance?
Élise, tu as vu ce clip?
J'ai vu le clip. Moi, je repense à Diams qui a sorti la chanson Marine il y a 20 ans de ça, qui était une chanson digne, qui n'était pas insultante, qui était polie, bien écrite. Aujourd'hui,
il y avait eu aussi La Jeunesse en Merde, le Front National.
Oui, ça va, mais là, en fait, la chanson, moi, elle me met très mal à l'aise. notamment vis-à-vis de l'antisémitisme, en fait. Parce que cette chanson, elle reprend tous les codes.
Pour ceux qui l'ont pas vu, faut quand même décrire.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est une chanson qui reprend tous les codes de l'antisémitisme. Donc, c'est une chanson contre le Rassemblement National, ça, y a pas de souci.
Ouais.
Mais qui dit, en gros, qui parle des francs-maçons, comme si, qui parle des francs-maçons, qui parle de Chétanyahou, le sale blanc, qui parle, du génocide en cours, que la Palestine sera libre du Jourdain à la mer. Enfin, de la Seine au Jourdain.
De la Seine
au Jourdain.
Donc, clairement, moi, j'ai, il y a des
et contre la vaccination.
C'est ce que j'allais dire. Bon, voilà.
En fait, c'est hyper complotiste.
Il y a très clairement du complotisme, de l'antisémitisme.
Elle me met très mal à l'aise, cette chanson. Je me dis, mais vous rendez compte ce que c'est d'être juif en ce moment? C'est-à-dire que, à la fois, je suis censée lutter contre le Rassemblement National, et on me le demande, mais je ne suis pas en capacité de pouvoir me rallier aux gens de gauche, parce qu'en fait, ils font des sorties qui sont complètement contre moi.
Ah, non, je peux pas dire des gens de gauche. De certains.
Non, bah oui, bah tout le monde.
Certains gens de gauche.
Une grande majorité de la gauche a partagé ce
clip. Oui, Dieu merci, il y a encore des gens de gauche.
Rémi, là, il y a vraiment des raisons, si vous voulez, judiciaires. Je comprends pas qu'il n'y ait pas des procureurs qui ne soient pas tout de suite élevés contre ce genre de choses, parce qu'il y a vraiment des appels au meurtre, quasiment. Donc c'est au-delà de la vulgarité, au-delà de la vulgarité, hein, il faut le dire. C'est appel au meurtre, c'est antisémitisme, c'est illuminati, c'est contre la vaccination. Tous les poncifs sont là. C'est plus que complotiste.
Et la haine des femmes. Et la haine des femmes aussi. Et je n'ai pas entendu les féministes de gauche ou
genre
les féministes s'élever quand deux femmes sont traitées de putes et de chiennes en rut. Pardonnez-moi, mais mesdames et messieurs, d'avoir cité ça, mais je pense que
et la
à un moment, il faut dire
également la mère de Bardella.
Et baiser la mère de Bardella. Enfin, je veux dire, la pauvre femme, elle a rien. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que désolé de devoir prononcer ces mots-là à la radio, mais il faut dire les choses. C'est-à-dire qu'il faut voir ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui.
La liberté d'expression a des limites.
Mais on a le droit d'être contre le Rassemblement National. On a le droit de s'élever contre le Rassemblement National. On a le droit d'être créatif contre le Front National. Mais ça, vous savez ce que ça fait? Alors déjà, c'est pénalement répréhensible. Et en plus, une nouvelle fois, cela sert le Rassemblement National. Parce que les gens vont aller voter contre ces gens-là.
En fait, c'est répondre à la bêtise par la bêtise. Enfin, c'est vraiment.
C'est tout.
Ça fait peur. Elle fait peur, la chanson.
Et moi, je trouve que dans l'espace médiatique, heureusement, chez nous, sur RMC, sur BFM TV, on parle de ça. Mais dans beaucoup de médias, notamment du service public, on soutient un peu, on est plutôt, on va dire, tolérant avec ce qui est dit. Si d'aventure un rappeur ou des rappeurs de droite, parce qu'il en a, avait fait une chanson sur la gauche, sur Marine Tondelier, par exemple, ou sur Jean-Luc Mélenchon, etc., je vous raconte pas le scandale que ça aurait fait. Donc moi, je trouve ça absolument lamentable et dangereux pour la société.
Les GG, notre économie ne peut pas fonctionner sans immigration. D'accord ou pas d'accord? Décriée par de nombreux Français, notamment par certains au RN, l'immigration a pourtant toujours fait partie de notre société. Certains secteurs d'activité ne peuvent pas s'en passer. Quand on témoignait ce matin sur RMC, Maxime, il est maraîcher, il a 35 ans et il travaille en Indre-et-Loire.
En tant qu'agriculteur, moi je suis inquiet. Nous avons besoin de salariés français, oui, mais aussi immigrés, parce que ils veulent venir travailler sur nos fermes, ils veulent venir travailler en France. Et moi je serais ravi de les accueillir. Puis en plus de ça, je suis maraîcher bio, du maraîchage biologique en petite culture très diversifiée. Les Français demandent du maraîchage bio, ils demandent à ce que l'agriculture respecte l'environnement, ils demandent à pouvoir manger des légumes de qualité qui ne mettent pas en danger leur santé.
On entend cet extrait, Robert, de ce maraîcher là bio qui travaille en Indre-et-Loire. C'est vrai que le discours... sur l'immigration, c'est légèrement tendu ces derniers jours, mais c'est pas nouveau. Il y a eu la loi immigration qui est passée du gouvernement. Il y a aussi une politique, en tout cas un programme migratoire du côté des LR qui est assez sévère. Et puis là, il y a le RN. Est-ce que c'est du populisme, tout ça?
Non, mais toute l'histoire de notre pays, si vous voulez, notre histoire économique de notre pays montre qu'effectivement, on a eu besoin d'immigration. Il y a les Polonais,
et on en a besoin encore aujourd'hui.
Les Italiens. Moi, je vais vous donner dans le domaine de la santé. Si aujourd'hui, nous n'avions pas de médecins étrangers, si vous voulez, on fermerait la moitié des services d'urgence de notre pays. La moitié des services d'urgence. C'est une réalité. C'est une réalité. Alors après, il faut des règles, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui... pas le choix, mais c'est toute l'histoire de notre pays qui est faite effectivement d'immigration. Ça veut dire une immigration contrôlée,
choisie,
Choisi, mais c'est une réalité. Et je crois que la vie économique de notre pays ne pourrait pas se faire sans immigration.
Bah, il suffit de regarder ce plateau. Voilà. Je pense beaucoup d'enfants et de petits-enfants d'immigrés autour de cette table. Mmh. Donc,
Moi pas, mais...
moi non plus.
Moi, oui. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et je pense que l'immigration, aujourd'hui, arrange en réalité énormément de secteurs. Ça offre beaucoup d'emplois.
Tu as raison. Enfin, toutes les organisations patronales, je parle des organisations patronales, le disent elles-mêmes.
Il suffit de voir Mélanie en Italie.
Sans la main-d'œuvre immigrée.
En Italie, Mélanie s'est vite retrouvée confrontée dans ses idées.
Ouais, elle avait dit qu'elle fermerait les frontières. Et finalement, le patronat italien lui a dit on a besoin de 850 000.
Excuse l'immigration pour moins payer.
Non, mais.
Voilà. On a souvent eu le débat. Moi, je suis pour la régularisation des sans-papiers qui travaillent.
Ouais.
Voilà. Le problème, c'est pas l'immigration de travail, c'est l'immigration illégale et l'immigration au groupement familial où les gens ne travaillent pas. Moi, je suis tout à fait pour, et je suis pour le fait que les immigrés qui viennent travailler soient totalement légaux pour ne pas faire baisser le prix de la main-d'œuvre au détriment de l'ouvrier français. C'est-à-dire qu'il faut un contrat de travail avec les règles françaises. Voilà, c'est ça. Parce que ce qui se passe, pourquoi le Parti communiste dans les années 80 était contre l'immigration? Parce qu'il estimait que c'était bon pour le patronat, parce que ça faisait baisser mécaniquement baisser le coût du travail et le salaire des ouvriers français. Donc moi je suis pour une immigration choisie et je suis contre une immigration illégale. Enfin, comme quand tu vas aller au Canada, par exemple, au Canada, ben, si t'as besoin de gens dans tel secteur, ben, tu peux te présenter pour immigrer, pour bosser dans ce secteur-là. Et l'immense majorité des Français n'est pas contre l'immigration choisie. Elle est contre l'immigration illégale où des pauvres gens se retrouvent sur la colline du crack à Stalingrad à Paris.
Mais Fred, le problème, c'est que, on parle de ce besoin de manœuvre immigrée. Mais encore faut-il l'accueillir, cette manœuvre immigrée, et l'accueillir dans des conditions dignes. Quand tu entends certains, et notamment au RN, certains, qui disent les logements sociaux doivent être réservés en priorité aux Français, à la main-d'œuvre, enfin aux Français, pardon, à la préférence nationale, comment tu fais pour bien les accueillir, ces gens-là, si ils n'ont plus de possibilité de se loger dans le logement?
Il faut que ce soit réservé aux gens qui travaillent. Aux gens qui travaillent dans les secteurs les plus importants. Mmh. Moi, je trouve c'est normal qu'une infirmière, une aide-soignante, puisqu'on est dans le secteur de Robert, soit prioritaire pour un logement social, parce qu'elle est encore plus importante que moi à la nation. C'est-à-dire, moi, je me considère moins important pour mon pays qu'une infirmière. Je le pense vraiment. Hein. Mmh. Moi, je suis là, je donne mon avis, c'est sympa, etc. Mais je pense que l'infirmière, elle a beaucoup plus raison de demander un logement social que moi. Quoi.
Les GG, les JO de Paris seront-ils vraiment écolo? Faire des jeux plus responsables, c'était l'un des engagements premiers lors de la candidature de Paris pour organiser ces Jeux Olympiques. Le village olympique, d'ailleurs, a été construit sans clim, mais devant le tollé des comités nationaux, le CIO a fait marche arrière en autorisant finalement l'installation de 2500 climatiseurs mobiles. Une décision qui ne choque pas l'éducateur Étienne Lébille.
Je pense que c'est quand on regarde partout, c'est le pragmatisme. C'est pour ça que parfois, il faut pas être dans l'inquiétude totale.
Ça va coûter plus cher, d'ailleurs.
Le pragmatisme, les politiques, à un moment, sont obligés de se confronter au pragmatisme.
Alors justement.
On dit, il va y avoir des hélicoptères individuels, il va y avoir tout ça. Bon, c'est des projets, c'est très bien, ça fait rêver. Puis après, on se retrouve devant la réalité, et la réalité, elle est toujours à une certaine distance. Et le politique, il est obligé de se confronter à cette réalité.
Quelle incompétence.
Je ne sais pas si c'est de l'incompétence, parce que finalement, quand on fait le calcul, ça a toujours existé, le fait de prévoir des choses et que ça se fasse pas, que ça se comme
le matériel. Ça va coûter plus cher.
Bon, écolo ou pas écolo, les JO, là, mais je comprends plus trop. Pas de clim, finalement, on fait marche arrière. C'est du pragmatisme ou du renoncement?
Mais c'est normal,
Alors qu'on l'a pas prévu au départ.
On aurait dû prévoir avant. Bah. Et sûrement, parce que ça sera plein de petites clims individuelles qui sont évidemment.
Ah non, c'est des gros climatiseurs mobiles,
c'est le truc que t'amènes toi. Ouais. Donc, ça va polluer encore plus. Et ça va coûter plus d'électricité que si c'était un système avec une vraie régulation. Non, après, il faut dire une chose quand même. Il faut reconnaître que la plupart des infrastructures existaient déjà.
Les sponsors des JO sont les entreprises les plus polluantes au monde. Voilà. Donc à partir de là.
Un Hidalgo refusé total.
Ouais,
c'est Coca-Cola, c'est le plus grand polluant mondial dans l'agroalimentaire. Ouais. Ils peuvent monter et descendre.
Les Américains, on a le droit, tu vois. Quand c'est français, on n'en veut pas.
Ah, oui. Ils peuvent monter et descendre, les JO, et je suis porteuse de la flamme, j'adore cet événement. Mais ce sera pas écolo. Et bon, c'est quelque chose à assumer, c'est pas un événement écolo.
Tu l'as déjà porté la flamme là?
Non, c'est le 15.
T'en verras les photos.
Bah tu viens.
D'accord.
Mais oui, on va aller. On va applaudir bon, oui, sur le bord. De la...
Apolline Matin, question primordiale. Et je ne vise personne. Comment devenir plus intelligent? Si vous souhaitez développer votre
besoin,
si vous souhaitez développer votre QI, et ce à n'importe quel âge, Robert, il vous faut privilégier certaines activités. Et la première d'entre elles est de jouer d'un instrument de musique, comme nous l'expliquait ce matin sur RMC Martin Bourdin.
C'est mon cas. C'est l'activité qui booste le plus votre QI, d'après une étude. Dans le top 3 de ces activités, il y a aussi le tricot, qui arrive deuxième, et faire de l'exercice troisième.
Le donc, sport, quoi.
Exactement. Donc, si vous voulez faire, si vous voulez devenir plus intelligent, vous savez ce qu'il faut faire. En revanche, faire de la couture ou jouer à un nouveau jeu de société, ne vous fatiguez pas trop, ça juste change quasiment rien sur votre QI.
Tricot, mais pas couture.
Tricot, mais pas couture.
Fred, oui, est-ce que tu joues du tricot? Est-ce que tu joues d'un instrument de musique?
Non, je suis tout à fait nul, d'accord, mais je joue de ma voix.
Attends.
Donc, je joue de ma voix.
Non, donc tu ne joues pas d'instrument de musique. Est-ce que tu sais faire du tricot?
Non.
Tu fais pas trop d'exercice physique?
Je marche beaucoup.
Ok.
Et tu sais ce que je fais pendant que je marche?
Non, ça explique beaucoup de choses.
Non, je vais te dire. Et tu sais ce que je fais quand je marche?
Tu écoutes RMC.
J'écoute RMC régulièrement.
Ah, ça c'est bien.
Oui, mais aussi, j'écris mes livres en marchant.
Ouais.
C'est pas pratique.
Je pense que
c'est vrai, mes livres, je les écris en marchant.
Ouais, mais je pense que c'est. Je pense que t'as encore de la main.
Moi, je joue à l'instrument.
Au niveau intellectuel? Ah oui. Puis ça, tu sais plus ce que ça a été.
Voilà. Robert, tu joues quoi comme instrument?
La guitare.
Bien.
J'ai la guitare qui me démange. Alors, je gratte un petit peu.
Je joue la guitare. Non, mais ce qui est.
Tu nous l'amènes un jour, la guitare.
Oui, avec plaisir. Ce qui est très important, c'est comment on fait travailler son cerveau. Ça joue sur le cognitif, ça joue sur l'intelligence, ça joue sur tout. Le cerveau, c'est comme les muscles du corps. Ça s'entretient et c'est pour ça que l'activité physique est importante.
Élise, tu joues d'un instrument?
Je joue du piano.
Formidable.
Et je suis brillante.
Et je suis sûr que tu sais faire du tricot. Merci d'avoir été avec nous. C'est fini pour aujourd'hui, Estelle Midi. Bah oui, on arrête dès 14h parce que priorité au Tour de France, évidemment. Et on retrouve Christophe Cessieux. Salut Christophe.
Salut Rémi.
Intégral Tour. Christophe. Cinquième étape aujourd'hui.
Et oui, cinquième étape.
Il va y avoir encore de très, très, très belles images et à la radio, évidemment, de grosses émotions parce que on passe de la Savoie au département de l'Ain, c'est ça, hein?
Exactement. Alors, c'est pas l'étape la plus sexy du Tour de France. Faut pas se cacher la vérité.
Beau paysage.
Ah, on peut pas avoir tous les jours la bagarre et tous les jours des cols comme le Galibier. Non, aujourd'hui, c'est une étape de transition. On va donc passer effectivement de la montagne jusqu'aux plaines de l'Ain. Et a priori, ça devrait être réservé tout à l'heure aux sprinteurs, les grosses cuisses du peloton qui vont s'en donner à cœur joie dans le final de l'étape avec un nouveau maillot jaune, Tadej Pogacar, qui a donc pris les commandes de ce Tour de France hier à l'issue d'un magnifique numéro. On va évidemment y revenir et on va vous parler de tous ces sprinteurs qui devraient s'imposer tout à l'heure. Pour l'instant, c'est parti piano. On sent que les organismes sont déjà fatigués. Il n'y a eu que 4 jours, mais
c'était
déjà,
dur hier. C'était dur hier. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Et puis on te retrouve dans un instant, Intégral Tour. Et nous, on se retrouve demain à partir de midi, Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À demain.